France Musique. France Musique.
Et pour cette première rediffusion d'été de l'ère des lieux sur France Musique, nous mettons le cap vers l'Italie, direction Rome, où nous attendent les musiciens de l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile et leur chef Antonio Pappano.
Oh, what an elegant room!
Well, it's not Buckingham Palace, but it's Wilson's little castle.
L'orchestre de Santa Cecilia à Rome, numéro 1 comme orchestre symphonique. Un orchestre galvanisé par le maestro Pappano, un orchestre qui a retrouvé son identité, un orchestre aussi courageuse, quelquefois avec les programmes, comme le programme Meyerbeer, dans l'occasion des 150 ans de la mort de Meyerbeer, un orchestre qui a recommencé à faire des tournées à l'extérieur, qui a joué dans les plus importants festivals européens, qui a fait des disques, donc, qui, dans la situation très difficile de la musique maintenant en Italie, a trouvé sa place.
L'ère des lieux à l'Accademia di Santa Cecilia sur France Musique jusqu'à 17h.
Ah, ok.
Annalisa Bini, c'est avec vous qu'on débute ce numéro de l'ère des lieux sur France Musique. Nous sommes à Rome, nous sommes ensemble jusqu'à 17h. J'aimerais juste en quelques mots que vous me situiez l'endroit dans lequel on se rencontre, avant même d'ailleurs de parler de la salle de concert elle-même, du lieu dans lequel nous sommes ici à Rome, par rapport au centre de la ville, au centre historique de la ville.
Eh bien, nous sommes dans notre actuel lieu, c'est-à-dire de l'Académie de Sainte-Cécile, mais nous sommes au Parco della Musica. Et quand on a décidé de bâtir ici l'auditorium, il avait espéré de ne pas trouver des ruines romaines. Et bien sûr, ponctuellement, on a trouvé une ville romaine qui est maintenant là-bas. Et c'est une lieu archéologique très important. Et tout le projet a été changé pour accueillir la ville romaine. C'est-à-dire qu'on est auprès de la Via Flaminia, qui était la rue qui amenait du centre de la ville romaine ancienne au nord de Rome jusqu'à Florence et après jusqu'aux mers adriatiques. Et c'est un lieu, on a des bois, des jardins, c'est très vert, mais c'est aussi très proche au quartier sportif. Comme vous savez, il y a on l'appelle le Villaggio Olimpico, c'est-à-dire un quartier bâti pour les Jeux Olympiques qu'on a eu à Rome dans le 1960. Et c'est comme ça que c'est un lieu très moderne. Ça semble de n'être pas à Rome, n'est-ce pas?
C'est vrai. Et vous me tendez une perche, Annalisa Bini, parce que d'ailleurs, c'est vrai que quand on vient ici pour la toute première fois à l'Académie Sainte-Cécile à Rome, on pourrait imaginer trouver ce lieu dans un palais romain magnifique, dans des églises. Et au fond, ça, c'est toute la grande histoire de cette Académie depuis le XVIe siècle. Mais non, nous sommes ici dans ce complexe, hein, parce que ça n'est pas seulement une salle de concert, ce sont plusieurs salles. C'est juste derrière nous des cafés, une bibliothèque, une médiathèque, un conservatoire aussi, on peut dire. C'est un complexe bâti au début du XXIe siècle, en 2002, par Renzo Piano, tout en briques rouges d'ailleurs.
Oui. C'est un brique en marbre typiquement romain. C'est le travertino, c'est un marbre blanc, un peu jaune. Tous les monuments de l'ancien Rome s'étaient bâtis avec ce marbre. Et aussi, il y a le plomb. Sur les dômes, il y a le plomb. Comme sur tous les dômes des églises les plus importants à Rome, comme vous avez vu Saint-Pierre, la dôme de Saint-Pierre est couverte avec le plomb. On dit comme ça en français, n'est-ce pas? Notre académie est née comme congrégation à la fin du XVIe siècle, fondée par un groupe de musiciens actifs à Rome, maîtres de chapelle, entre eux Palestrina, Marenzio, le De Anerio et comme ça. Eh bien, on a eu beaucoup de différents sièges à Rome. On a commencé avec le Panthéon. On était là-bas, dans l'église de Santa Maria ad Martires, c'est-à-dire le Panthéon. Et après, on a changé beaucoup de sièges. Et à la fin du XVIIe siècle, on est arrivé à San Carlo ai Catinari, où c'est une église qui est près de Piazza Argentina, près de Palazzo Farnese. Et là-bas, il y a encore notre ancienne chapelle avec la Sainte-Cécile, par Antonio Gherardi, un peintre du XVIIe siècle, et aussi avec toutes les décorations musicales, c'est-à-dire on a des anges musicains dans la chapelle, et comme ça. Et c'était notre chapelle jusqu'au début du XXe siècle.
On se parle depuis le début de cette émission, Annalisa Bini, mais on a juste oublié de dire ce que vous faisiez ici, au sein de tout de même l'Académie nationale Sainte-Cécile à Rome. Quelle est votre fonction, votre métier ici?
Moi, je suis un membre de l'Académie. Et moi, je suis la responsable des activités culturelles, c'est-à-dire les congrès, les exhibitions, les publications. On est aussi une maison d'édition musicologie et aussi musicale. Et on a des collections très importantes comme la bibliothèque, l'archive historique, l'archive sonore et les musées instrumentaux. C'est pour ça qu'on a, quand on est arrivé ici, on a finalement eu l'espace pour placer notre collection. Et maintenant, ils sont ouverts au public.
Oui, et avant justement qu'on découvre avec vous la grande salle de cette Académie de Sainte-Cécile ici au Parco della Musica à Rome, Annalisa Bini, mais c'était dire en quelques dates la fondation de l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile, les jalons qui mènent à la création d'un orchestre régulier et fixe jusqu'à son histoire contemporaine, celle d'aujourd'hui.
L'orchestre a été fondé officiellement dans l'année 1908. Et cette date est liée à l'inauguration aussi de la nouvelle salle. À l'époque, c'était une chose fantastique. C'était une salle de plus de 3000 places. Et il s'appelait Augusteo. Et il était jusqu'au centre de la ville. Et c'était une salle de concert bâtie dans le mausolée d'Auguste. Et c'était une salle merveilleuse. Et c'était une salle de concert où sont passés vraiment les noms les plus importants comme chef d'orchestre dans le répertoire symphonique, car notre orchestre est né pour le répertoire symphonique, pas pour le répertoire d'opéra lyrique et comme ça. Quelquefois, on fait des opéras en forme de concert, mais d'habitude, on est spécialisé dans l'opéra symphonique. Ce n'était pas très fréquent en Italie à l'époque.
On peut découvrir la salle avec vous, Annalisa Bini. Auditorium Parco della Musica, ici Annalisa Bini avec vous, qui va nous amener donc à la grande salle de concert de l'Académie Sainte-Cécile. C'est combien de places cette salle?
2780, c'est-à-dire presque 3000 places.
À raison de trois
concerts par semaine.
C'est-à-dire un programme multiplié par trois soirées.
Oui, oui. On a la première soirée le samedi, et la deuxième le lundi, et la troisième le mardi.
Alors ce soir, c'est un concert avec le Palazzetto Bruzane. On a l'affiche juste d'ailleurs sous les yeux. C'est un concert avec Diana Damrao, le directeur musical de cet orchestre aujourd'hui, Antonio Papano, consacré à Meyerbeer et puis quelques autres compositeurs, en particulier Berlioz, Wagner et Rossini. En quelques mots, vous disiez, grande histoire évidemment de chef, l'histoire de l'Académie Sainte-Cécile depuis le début du XXe siècle, de chef et de compositeur. On pourrait citer Gustav Mahler, parmi vraiment les premiers à avoir dirigé cet orchestre, Richard Strauss, Toscanini plus proche de nous. Enfin, la liste, elle serait immense, parce que tout ce qui compte de grand chef a dirigé Sainte-Cécile et continue de le diriger. Et on a juste sous les yeux, tout de même aussi, quelques photos. On a des grands chefs d'aujourd'hui qui ont dirigé et qui continuent de venir à Sainte-Cécile. Et nous citer leur nom, s'il vous plaît, Annalisa Bini.
Oui, ici, on a une exposition photographique qu'on a récemment réalisée avec des photos par Marco Anelli. Et on a Temir Kanov, Daniele Gatti, Simon Rattle, Claudio Bado, Harding, Valérie Gergiev. Et après, on a eu Chung.
Voilà.
Chung.
Alors ça, pour l'anecdote, tout de même, à nos deux chefs maison, si j'ose dire, les deux chefs de la maison de la radio, le chef de l'orchestre philharmonique de Radio France et celui de l'orchestre national de France, Myung-Hoon Chung et Daniele Gatti, sont les deux chefs qui se sont succédés ici à la tête de l'Académie Sainte-Cécile avant l'arrivée d'Antonio Papano. C'était quand l'arrivée de Papano ici à Sainte-Cécile?
Et l'arrivée d'Antonio Papano, c'est de 2005. Et on espère de l'avoir pour beaucoup d'années, car je pense que lui aussi a une liaison très importante avec notre orchestre, notre public. On peut dire qu'on adore Antonio Papano, car c'est pas seulement le grand artiste, le grand chef d'orchestre, c'est aussi la personnalité, la sympathie qu'il y a entre le public romain, notre orchestre et lui.
On va le découvrir, alors, cette salle de l'auditorium, ici, Annalisa
Bini.
C'est par ici, c'est ça?
Oui.
Ah, non.
Thank you. Annalisa Bini, on est ici donc dans cette grande salle, dans l'auditorium Parco della Musica, cette salle de l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile à Rome. Ce sont les derniers préparatifs avant le concert de ce soir, Gala Meyerbeer avec Diana D'Amrao et Antonio Pappano, juste avant, enfin en entrant précisément dans cette salle. Vous me disiez quelque chose que j'aimerais bien que vous redisiez dans le micro, l'odeur particulière de cette salle.
Ah oui.
Qui est là quasiment depuis le début.
Il y a toujours l'odeur du bois, comme si on a inauguré hier. Quand on est arrivé ici, on a eu finalement ce qu'on avait perdu dans 1936, car le Austeo, la salle de concert que je disais, avait été détruite détruit par la volonté de Mussolini dans le fascisme, pendant le fascisme, et on a eu jamais un nouveau auditorium jusqu'ici. C'est-à-dire qu'on a changé beaucoup de théâtres à Rome, Théâtre Adriano, Théâtre Argentina et à la fin l'Auditorio Pio, mais ce n'était pas la même chose. On a besoin d'une salle de concert avec l'acoustique précise qu'on demande pour le répertoire symphonique et tous les autres étaient des théâtres lyriques ou un auditorium qui n'était pas bâti pour la musique mais pour les conférences. L'Auditorio Pio a Via della Conciliazione. Et c'est pour ça que quand on a finalement eu le nouveau auditorium, la réalité, je ne sais pas comment dire, c'est qu'on attendait
depuis longtemps.
Depuis longtemps.
Merci beaucoup. Dernière petite question, parce qu'on va écouter donc ce soir ce concert avec Diana D'Amrao et Antonio Pappano, programme consacré à Meyerbeer. Ça, c'est un compositeur que vous connaissez bien,
oui.
Annalisa Bini, Meyerbeer.
Oui.
Moi,
je le connais.
Beaucoup.
Ah oui, je l'aime beaucoup. Et je suis très curieux d'entendre quelle sera la sensation d'écouter Meyerbeer en fin de concert, car c'est un compositeur de grand opéra. Et le grand opéra, ça signifie tous, ça signifie entr'acte, danse, chœur, grand spectacle, grand scène, grand tous. Mais j'ai entendu un morceau des épreuves et c'est très fascinant. Je suis très curieuse d'écouter le concert ce soir.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Grazie.
Vraiment.
Thank you. L'air des lieux avec l'Accademia Santa Cecilia autour de Meyerbeer sur France Musique jusqu'à 17h.
Et à l'instant, c'était un extrait de cette soirée Meyerbeer que Diana Damrau, l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile et Antonio Papa nous donnaient il y a une petite quinzaine de jours à Rome. Extrait du dernier ouvrage de Meyerbeer d'ailleurs, conçu pour un théâtre italien, Il Crociato Inedito. Alors on célèbre cette année, vous le savez, le 150e anniversaire de la disparition du compositeur. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ses ouvrages n'encombrent plus et depuis longtemps les affiches des maisons d'opéra. Voici quelques clés d'explication avec Alexandre Dradwicki. C'est le directeur scientifique du Palazzetto Bruzane, le centre de musique romantique française installé à Venise et qui organisait ce gala Meyerbeer avec l'Académie Sainte-Cécile.
C'est très clairement la Première Guerre mondiale qui a radicalement fait disparaître la plupart des ouvrages et d'autres vont se maintenir jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi est-ce que Meyerbeer disparaît ? Très clairement parce que on a connu une autre vocalité, celle de Massenet, celle de Bizet, celle de Gounod, c'est-à-dire Ambroise Thomas, c'est-à-dire moins d'aspérité vocale. On n'est plus dans la vaillance pour la vaillance. Et c'est vrai que je pense que la génération Puccini, et notamment l'opéra italien de l'époque de Puccini, qu'on retrouve après en France dans des choses comme Louise de Charpentier ou ce genre de musique, vont quand même, pour ceux qui aiment le grand opéra, revisiter complètement la vocalité. Et puis alors après, l'autre chose, c'est différent, c'est la modernité. Là, c'est à la fois Debussy et ensuite le groupe des Six en France. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le langage musical qui ne convient plus aux oreilles du début du XXe siècle.
Et c'est parce qu'il y faut aussi des personnalités, des tempéraments, je veux dire des voix. Là, on se rencontre pour l'air des lieux cet après-midi, mais il y a encore un petit moment, c'était Lirico Spinto. C'était une heure et demie consacrée à Meyerbeer, à des grands enregistrements qu'on connaît, en italien aussi. Je pense à un enregistrement de Robert le Diable en italien avec Renata Scotto, qui est absolument magnifique et peut-être hors sujet, vous me direz, Alexandre Dradwicki aujourd'hui, mais quand même, ça veut dire qu'il y faut aussi des grands tempéraments et des voix françaises, alors pour le coup, pour défendre au mieux ce répertoire aujourd'hui.
Alors, voix française, je ne suis pas certain parce que comme je vous le disais rapidement tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même des personnages italianisants dans cette affaire-là, dans le style hétéroclite, hétérogène de Meyerbeer. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que les voix italiennes sont bienvenues dans certains emplois, mieux que dans certains autres. Très clairement, le XXe siècle, en termes de pédagogie vocale, a enseigné aux chanteurs de savoir s'économiser, de savoir respecter leur voix. Et c'est vrai que le XIXe siècle avait vraiment porté vers l'idée du maximum sonore, de forcer la tessiture en haut, en bas et dans le volume. Autant le XXe siècle et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, on a mis en garde les jeunes chanteurs, les jeunes générations. Et la pédagogie qui s'applique encore de nos jours, c'est celle de pas trop tôt, pas trop vite, pas trop fort. Et du coup, il y a tout un répertoire qui se trouve de fait fortement déconseillé, sinon interdit par les professeurs, et typiquement le grand opéra français. Peut-être que Verdi et Wagner, d'ailleurs, on ne l'enseigne pas à Wagner, on y arrive par soi-même plus tard, mais on n'enseigne pas Wagner dans des cours de chant. On enseigne le Verdi de Traviata ou de Rigoletto, mais on n'enseigne pas Aïda dans des cours de chant. C'est-à-dire qu'on se mesure à Aïda quand on est formé et qu'on a une voix qui le permet, mais Meyerbeer ne s'enseigne pas. Donc, quelqu'un qui n'est pas formé à un répertoire, qui ne connaît pas un compositeur, ne l'abordera pas en plus naturellement par la suite, ou ne demandera pas à l'aborder quand il devient célèbre.
Et vous, si vous deviez choisir un seul opéra, un ouvrage que vous aimez peut-être davantage que l'autre dans les grands opéras connus de Meyerbeer, ce serait lequel ?
Alors moi, personne ne comprend, mais pour moi, très clairement, l'Africaine est à des années-lumière des autres. Alors il faut savoir que pourtant ça a été composé beaucoup plus tôt qu'il n'y paraît, donc ça date de la même époque que Le Prophète, etc. Mais je sens chez moi dans l'Africaine qu'on a fini le tour de force vocale et qu'on est vraiment dans une vocalité poétique, une histoire qui est d'abord une histoire avant d'être une succession de numéros de bravoure, quand bien même j'adore la bravoure vocale.
Spettacolo divino, sognata terra, ecco ti premo il fiume, oh paradiso, dall'onda uscito, fiore in te suore.
questo terreno fecondo.
En 1957, Carlo Bergonzi enregistrait cet air fameux entre tous, l'air de Vasco de Gama dans l'Africaine de Meyerbeer. Gian Andrea Gavazzini dirigeait les musiciens de l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile avec lesquels nous poursuivons ce numéro de l'air des lieux jusqu'à 17h.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir
Charles.
Alessandro Carbonale. Donc asseyez-vous, on ferme la porte. Mm. Pas forcément, ça va ?
France Musique.
Alessandro Carbonare, vous êtes clarinette solo ici à l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile à Rome. Ça fait un tout petit peu plus de 10 ans et vous étiez même ici pour l'inauguration, c'est ça, le concert d'inauguration ici au Parco della Musica ?
Oui, absolument. Je suis rentré fin 2002 et après avoir passé pas mal d'années à l'Orchestre National de France, j'ai vécu à Paris 15 ans. Et ici, justement, ils ouvraient ce nouveau auditorium, donc ils ouvraient des places à l'orchestre. Et j'ai bien pensé de revenir dans mon pays pour cette occasion.
Alors, quelles étaient les sensations dans une salle aussi grande quand même, hein, que cet auditorium, 2800 places ou pas loin, j'imagine qu'il faut prendre ses marques quand on joue ici pour la toute première fois. Comment ça s'est passé pour vous et tous vos collègues, bien sûr?
Oui, l'auditorium, c'est 2700 places et c'est vraiment énorme. Il faut dire que le son, ça résonne pas mal, mais c'est vrai qu'il faut pousser un peu. Donc il faut vraiment penser pas aux gens qu'on voit, mais aux gens qu'on ne voit pas, qui sont là-bas au fond des galeries, quatrième galerie. Mais quand même, la salle a une acoustique qui est pas mal pour ça, donc ça va.
Alors, c'est une salle, c'est une acoustique, c'est ce Parco della Musica ici à Rome, ce bâtiment inventé, imaginé par Renzo Piano, et puis c'est une histoire aussi, l'Académie Sainte-Cécile, j'imagine, quand on est musicien comme vous, premier clarinette solo au sein de cet orchestre, c'est la fierté d'appartenir aussi et de s'inscrire dans un héritage et dans une grande histoire plus que centenaire maintenant de cette Académie Sainte-Cécile.
C'est une histoire très difficile parce que vous savez que l'Italie est le pays de l'opéra. Donc ce n'est pas très difficile de faire de l'opéra en Italie, mais c'est beaucoup plus difficile de faire du symphonique. Donc nous, on est la seule grande orchestre qui fait ça. Et donc on essaie de faire ça bien et c'est pas facile parce que quand on va au Japon et on joue Traviata, bon, ça va, ça passe. Mais quand on va à Vienne au Musikverein et on fait une symphonie de Mahler et on est italien, il faut quand même avoir un peu de courage. Et grâce à Antonio Pappano, on a pris ce courage, on est allé deux, trois fois à Vienne jouer du Mahler pour les Viennois, donc c'était important.
Alors ça veut dire qu'il travaille avec vous, de quelle façon justement votre chef, votre directeur musical Antonio Pappano, je veux dire, dans quel sens, à la fois en termes de répertoire, de culture, d'un son, d'orchestre, c'est quelle forme d'échange que vous avez avec lui?
Alors, la chose sympa, c'est que Antonio Pappano, c'est un conducteur d'opéra. L'opéra, c'est sa vie, lui, il vit dans l'opéra. Donc c'est justement un apport de tous les deux. C'est-à-dire, nous, on est un orchestre symphonique, on n'a pas le répertoire d'opéra. Okay. Quelquefois, on fait des opéras en forme de concert, bien sûr, mais on comprend bien que ce n'est pas notre truc. C'est comme quand on a une veste, mais qui n'est pas vraiment ta veste. Lui, par contre, Il nous aide dans ça, c'est-à-dire il nous amène la versatilité, l'élasticité, est-ce que ça se dit ? L'élasticité de l'opéra dans un répertoire que des fois, c'est pas vraiment ça. Et je vous assure que nous, on va souvent en Allemagne jouer, et on fait souvent de la musique allemande en Allemagne, et les critiques reconnaissent ça, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de faire... De rassembler à la Philharmonique de Berlin. Il n'y a pas de compétition, mais on essaie de faire la musique allemande de notre façon, que quand il y a des bases solides par le directeur et par l'orchestre, c'est intéressant, même si on n'est pas à la Philharmonique de Berlin.
Cette histoire, vous le disiez aussi en filigrane, Alessandro Carbonaro, c'est l'histoire de la vie symphonique en Italie aujourd'hui, avec de moins en moins d'orchestres, au fond, parce que ce pays, il était lié aussi à une grande culture des orchestres de radio, et ceux-là, ils ont disparu au fil des années.
Oui, c'est vrai. La radio avait 4 orchestres, maintenant il n'y a plus qu'une. Vous savez, là, il y a quelques jours, les gens de l'orchestre, le chœur de l'opéra étaient licenciés, donc il y a une grande crise. C'est pour ça qu'il faut se baser sur une seule chose, le niveau. Si on a le niveau, on est inattaquable. Si on a le niveau, on s'en sort. Si on a un niveau moyen allant vers le bas, on est toujours attaqué. Et donc c'est très facile qu'il arrive des choses pas sympas. Nous, on tient beaucoup à ça. On sait très bien que, surtout en tant qu'orchestre symphonique, on pourrait même pas n'exister dans un pays comme l'Italie. Mais si le niveau de la musique qu'on fait est important, on a notre place, bien sûr.
Le public est fidèle au rendez-vous ici, au concert de l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile, parce que ce sont d'une manière régulière trois fois le même programme dans une semaine que vous donnez dans une salle, donc vous le rappeliez, de 2700 places. Donc il faut remplir chaque
soir.
C'est
pas facile. C'est pas facile. Moi, je me rappelais quand j'ai joué à l'Orchestre National, nous on jouait une fois par semaine, des fois deux quand il y avait des grands chefs. Quand je suis arrivé là, on m'a dit, ah non, mais nous c'est tous les semaines trois fois, même des fois quatre, parce que des fois on fait aussi le concert le dimanche, un concert réduit. Et finalement, c'est pas mal vraiment, parce que c'est vrai, la salle pleine, on l'a quand il y a des grands solistes, mais quand même, on a toujours une vision de la salle qui est quand même plutôt pleine. Je ne connais pas le pourcentage de la saison, mais quand même c'est un pourcentage assez élevé. Et on a, vous savez, à Rome, c'est une tradition qui se répandit de père aux filles,
qui se perpétue,
oui, de père en fils, de se donner l'abonnement à Santa Cécile. C'est historique ça. Le père donne l'abonnement à Santa Cécile comme cadeau au début de l'année. Donc c'est quelque chose qui n'a pas cessé et on a une bonne quantité d'abonnés qui nous rejoint trois fois par semaine.
Et cet orchestre d'ailleurs, il a quel profil, je veux dire, en termes de nationalité des musiciens, de génération aussi, d'âge, c'est assez mélangé, c'est plutôt jeune?
Vous allez voir, on est plutôt, tout le monde est autour de 35. Oui, je pense que l'âge est ça. On vient de faire pas mal de concours de recrutement et on a des jeunes magnifiques d'ailleurs. On vient d'avoir un nouvel premier violon, donc, qui est génial, qui vient d'Espagne. On a quelques étrangers, mais l'Italie, bien sûr, c'est la partie forte de ça. Surtout l'Italie du Sud. Il y a beaucoup de gens de l'Italie du Sud qui ont gagné la place à Sainte-Cécile. Vous savez, au sud, il y a beaucoup de musicalité. Et nous, on tient beaucoup à ça. Peut-être il n'y a pas énormément de précision, mais ça, on l'apprend. Et la musicalité, on ne l'apprend pas. Donc, il y a beaucoup de gens de l'Italie du Sud qui viennent ici, qui jouent bien, et on les prend parce qu'ils ont une façon de chanter qui nous attire.
Per Mozart, evidentemente, la sua sinfonia Hafner e per l'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia diretta da Antonio Tappano per questo ultimo
brano. Quand vous êtes arrivé ici au sein de cet orchestre, c'est Mio Munchung qui en était le directeur musical.
Oui.
Antonio Tappano est arrivé quelques années après.
J'ai fait, je pense, les derniers 8 mois de Chung et Antonio Tappano est arrivé. En fait, vraiment, j'ai fait là. Le passage.
C'est quel type de personnalité Antonio Tappano?
Déjà il est génial. Déjà tu le vois dans les couloirs, il se rappelle de toi, de ta femme, comment va ta fille, il se rappelle le nom de ta fille. Ma fille a eu un problème de santé il y a quelques mois, il s'est arrêté, il m'a demandé tout ça. Donc c'est un homme avec une humanité qui est vraiment incroyable, vraiment incroyable. Il a une passion que j'ai jamais vu ça à personne. Il a une passion pour le travail qu'il fait qui est vraiment incroyable. Il a une énergie que je ne sais pas où il arrive à la trouver. Moi, je le dis toujours, mais toi, tu dois changer les piles chaque jour parce que ce n'est pas possible. Après 6 heures de répète, nous, on est crevés et lui, il continue encore avec la même passion de la première minute. Et après, il a encore une répétition avec le chœur, après avec les solistes. Je sais, les chefs font ça. Mais moi, je n'ai jamais vu une fois dans ma vie Antonio Pappano fatigué. Et ça m'agace un peu parce que je ne sais pas comment il fait.
Et avec peut-être aussi un répertoire, vous diriez, de prédilection, enfin quelque chose dans lequel vous l'aimez particulièrement. Il y a beaucoup d'enregistrements de disques, et évidemment, avec votre orchestre et avec lui, des répertoires extrêmement variés, mais tout de même, vous le sentez dans des affinités plus singulières avec un répertoire et des compositeurs plus que d'autres ?
Non, je ne veux pas dire un compositeur en particulier, mais je vous raconte une histoire. Il y a quelques années, bon, moi j'ai joué pendant énormément d'années avec Claudio Abbado. J'étais la clarinette solo de ses orchestres à Lucerne et à l'Orchestre Mozart. Donc quand j'ai joué Mozart, pour moi c'était Claudio Abbado, il n'y avait rien d'autre. Et un jour, on a fait les 3 dernières symphonies de Mozart avec Antonio Pappano. Et donc je me suis dit, bon, on va voir un peu qu'est-ce que c'est. Et finalement, non, c'était très bien. C'était rien à voir avec Claudio Abbado parce que Antonio Pappano est très intelligent et c'est très bien que c'est inutile de faire la copie de Claudio Abbado parce que ça ne marchera pas. Donc il a donné sa version un peu lyrique, un peu opéristique, si on veut voir, aux 3 symphonies de Mozart, et ça marchait très bien. C'était vraiment très intéressant ce qu'il a fait. Donc je pense que l'extrême intelligence de Tony est justement de ne pas faire la copie de quelqu'un d'autre. C'est ça, peut-être tu aimes, peut-être tu n'aimes pas, mais tu ne pourras jamais dire Antonio Pappano essaye d'imiter Kleiber, Abbado, c'est pas son truc ça. Donc c'est intelligent quand même. Non?
Dernière question, le répertoire que vous jouez ce soir, vous le connaissiez bien, vous, ce répertoire de Meyerbeer, ces opéras bon, qui ne sont quasiment jamais donnés évidemment dans leur intégralité, mais dont on connaît comme ça 2-3 airs et pas plus.
On connaît quelque chose, on sait qu'il a créé l'Africaine, Dinora, moi j'ai déjà entendu ce nom, mais honnêtement, personne n'a joué rien de ça. Bon, je connais très bien Berlioz, ce qu'on va jouer, l'ouverture qu'on va jouer, parce que je l'ai joué 1000 fois à Paris. Mais c'est vrai, c'est un répertoire complètement nouveau, donc on le découvre avec lui. Mais j'aimerais bien savoir si Antonio Pappano connaissait ça lui-même, parce que je ne pense pas qu'il a eu l'occasion de diriger souvent du Meyerbeer. Je ne pense pas, mais allez lui demander.
Posez la question.
À bientôt.
Merci beaucoup.
Merci. Merci. Bon français encore. Ça va?
Grazie.
Thank you. Rosa, andiamo per l'intervista.
L'heure de lieu à l'Auditorium Parco della Musica sur France Musique jusqu'à 17h.
Alors, je viens tout de suite.
Oui, 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 pas de problème, pas de problème. Bonsoir.
Je dois m'en occuper de mon soprano.
Ok.
Antonio Papano, j'ai une question à vous poser de la part du clarinette solo de l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome, dont vous êtes le directeur musical, Alessandro Carbonari. Me demandez au fond ce que vous connaissiez, vous, et depuis quand, de la musique des opéras de Meyerbeer. Comment avez-vous connu ce répertoire et cette musique, Antonio Papano?
Écoute, je suis chef d'une maison d'opéra. À Covent Garden, à Londres, the Royal Opera House. Mais Meyerbeer, c'est un répertoire qu'on fait pas beaucoup. La maison, il y a 2 ans, nous avons fait Robert le Diable. Mais c'est un répertoire qui est difficile parce que tout le monde sait qu'il faut les grands, grands chanteurs. Mais les versions, la longueur, le spectacle, ces pièces sont faites pour être grands spectacles, non? C'est grand opéra et les expectations sont énormes. L'écriture vocale est sublime. Et quand on a les chanteurs qui ont le courage d'affronter cette espèce de écriture qui fait peur quand on le voit sur le papier.
Le courage, mais des moyens.
Des moyens et la force de la personnalité. C'est pas une musique qu'on peut faire des versions authentiques. Il faut la personnalité du chanteur. Ça fait part de cette musique. Mmh. Ça vient quand c'est incarné. Ça vient quand qu'un chef d'orchestre croit en ce répertoire. Et alors, je suis attiré par ça. Robert le Diable, par exemple, ce soir, l'air avec le cor anglais. L'écriture est presque exactement la même chose que Verdi a fait dans La Traviata. C'est pas un accident. Et peut-être Meyerbeer était pas le compositeur le plus réussi de A jusqu'à Z, comme le grand Verdi, etc., et Wagner. Mais il avait des idées qui ont influencé les grands. Il a sémé une certaine manière pour écrire pour la voix et une certaine manière de structure pour l'air vocal, pour créer quelque chose pour le public. Oui, c'est un compositeur très... pas assez apprécié, disons comme ça.
Alors plus largement, on consacre cette émission évidemment à cet anniversaire de la disparition de Meyerbeer, les 150 ans de sa disparition, et puis à cette maison dont vous êtes le directeur musical, Antonio Papano, à l'Académie Sainte-Cécile. Quand vous êtes arrivé ici à la tête de cet orchestre, vous aviez quelle idée et quelle image de l'histoire de cette formation? C'était quoi pour vous l'histoire de Sainte-Cécile quand vous en avez pris les rênes?
J'avais pas une idée complète, parce que mon idée à moi, c'était que l'orchestre était fameux pour les disques d'opéra dans les années 50, pour Decca.
Période Decca, oui, pour Sainte-Cécile.
Oui. Et Del Monaco, Tebaldi, tous les grands chanteurs, Corelli. Et alors, c'était ça pour moi. Mais je savais pas que tous les grands compositeurs du 1900 et les prochaines 50 années, plus, sont venus ici diriger, faire leurs pièces, Mahler, Strauss, Mascagni, Stravinsky, Debussy, tous les grands musiciens sont venus ici. Alors il y a une grande histoire. Parlons pas des grands chefs de Furtwängler, Kleiber, père et fils, Karajan, De Sabata, Toscanini. Alors l'histoire de l'orchestre est impressionnante. Mais j'ai trouvé un orchestre qui avait besoin d'embrasser le fait qu'ils sont italiens. De redécouvrir l'élan et l'esprit italien et le tempérament, c'était un peu en retraite, disons.
Alors ça passe par quoi? Ça se
manifeste comment? Je sais pas. On doit jamais oublier que pour une orchestre symphonique italienne, il y en a pas beaucoup. La plupart de la musique qu'ils jouent, c'est de la musique allemande, d'Autriche, la musique française, russe. Parce que la musique symphonique italienne, il n'y en a pas, presque. Mais moi, j'ai essayé, par exemple, les opéras que je fais en forme de concert ici, la plupart que j'ai fait, on ne les fait pas beaucoup, mais de temps en temps, sont italiens. Avant, ils faisaient seulement Strauss, Wagner, etc. De temps en temps, un Mozart. Mais Wagner, Strauss avec Sinopoli, avec Gatti, avec Tillemann, ils ont fait les grands opéras. Alors, moi, j'ai fait Guillaume Tell, Bal Masqué, aussi Peter Grimes, mais j'ai fait des disques maintenant avec eux, avec des grands chanteurs, Kaufmann, j'ai fait un disque de Verismo. Maintenant, il y a 3 semaines, on a fait un disque de Puccini. Et ça, avec le contact avec leur musique était très important.
Et Butterfly aussi.
Et Butterfly, oui, c'est vrai. Et je trouve ça fondamental pour eux comme identité, pour leur identité.
Dans une grande histoire qui est celle d'une institution comme celle-ci, qu'un Mahler a dirigé, qu'un Strauss a dirigé, qu'un Toscanini a dirigé, Karajan, tous les grands chefs qui se sont succédés au pupitre de l'Académie de Sainte-Cécile à Rome. Antonio Papano, il y a quelque chose d'émouvant à s'inscrire dans une histoire plus que centenaire aujourd'hui, d'une formation comme celle-ci?
Oui, pour moi, j'ai un rôle ici et je suis quelqu'un qui est là pour ce moment-là, et quelqu'un d'autre va venir après moi. Et j'espère qu'il est mieux, qu'il est plus jeune, qu'il est plus doué. Mais je suis fier et content d'avoir un peu d'histoire maintenant avec l'orchestre. Et le fait que nous avons la possibilité pour aller en tournée, beaucoup, je dois dire, ça fait que le monde nous connaissent aussi, et ça, je trouve, pour mes musiciens, très important.
Merci.
Non, je vous en prie.
Thank you, Tom. Merci à vous. Je prends juste cette affiche en photo.
De Guillaume Tell, de Rossini, l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile, sous la baguette d'Antonio Pappano. Le disque vient tout juste de paraître chez Warner. Ce sont sept ouvertures plus quelques variations dans lesquelles se distingue, entre autres, le clarinettiste solo de cette formation, Alessandro Carbonari, avec lequel nous étions tout à l'heure. Parmi les autres disques très attendus, justement, dans les prochains mois, avec Pappano et Sainte-Cécile, il y a une Aïda dont l'enregistrement est prévu en concert. Ce sera au mois de février 2015 et ce sera avec Anya Arteros, Jonas Kaufmann et Ludovic Tézier. Rien que du beau monde.
Je peux me permettre de prendre une photo pour...
De nous ?
Oui.
C'est donc sous les auspices de Sainte-Cécile, la patronne des musiciens, que l'on referme cette équipe romaine de l'air des lieux. C'est Agnès Catou qui a réalisé cette émission. Un grand merci à elle. À Jean-Michel Coqui qui était avec nous pour le mixage et à Céline Tranouvelle pour toute la préparation. Info, réécoute et podcast, c'est sur francemusique.fr.